affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et une fois n'est pas coutume, notre émission sera précisément consacrée aux académies et à l'Institut de France qui les chapeaute. Nous n'avons pas choisi ce thème en raison d'un quelconque narcissisme, mais parce que l'actualité nous l'imposait. En effet, voici quelques semaines, l'Institut de France a acquis, en vente publique, un manuscrit de Chateaubriand qui jette un éclairage singulier sur l'histoire des institutions académiques françaises. En effet, dans ce manuscrit, l'écrivain royaliste se prononce pour le maintien de l'Institut, ce qui a peut-être contribué à sauver celui-ci. À partir de la petite histoire de l'acquisition de ce manuscrit, nous serons donc invités à évoquer la grande histoire des académies et à travers elle l'histoire de France, car l'une et l'autre, bien sûr, sont intimement liées. Pour accomplir ce parcours érudit dans l'histoire, nous avons la joie et l'honneur de recevoir dans nos studios Monsieur le chancelier Gabriel de Breuil, qui depuis 2006 préside aux destinées de l'Institut et a été à l'initiative de l'acquisition de ce fameux manuscrit de Chateaubriand. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous dire dans quelles conditions l'Institut de France s'est-il porté acquéreur de ce manuscrit ? J'ai lu qu'il avait été acquis en vente publique, c'est-à-dire aux enchères. Or, on le sait, l'issue d'une enchère est toujours incertaine. Comment celle-ci s'est-elle déroulée ? A-t-elle été disputée ?
C'est une heureuse circonstance, en effet. L'arrivée dans les collections de la bibliothèque de l'Institut d'un manuscrit important de Chateaubriand sur la création ou le maintien de l'Institut, voilà, c'était une occasion à ne pas laisser passer. Et dès que la vente de ce manuscrit a été annoncée, c'est-à-dire assez peu de temps avant la vente, n'est-ce pas ? On a peu de temps pour réagir dans ces cas-là. Et il n'y a eu qu'une opinion, ce texte devrait revenir à l'Institut de France dans ses collections. Donc peu de temps, connaissance non prise du manuscrit lui-même, et nous sommes une institution qui ne se décide pas comme ça à la minute, et donc il fallait mettre en place le mécanisme. Meilleure connaissance du manuscrit, et puis un article paraît dans la presse disant « ce manuscrit est extrêmement rare, Chateaubriand avait détruit tous ses manuscrits, Chateaubriand prend parti pour l'Académie française et sauve l'Académie française.
Voilà qui brouille l'enjeu d'emblée.
Les pistes étaient brouillées. Mais il n'empêche que ce manuscrit, d'après la première lecture que nous avons pu faire, même par photocopie, montrait que le document était extrêmement intéressant. Et cette analyse a été confirmée d'abord par le fait que le ministre de la Culture et de la Communication, la ministre de la Culture et de la Communication, a autorisé la préemption de ce document comme devant rejoindre les collections publiques. D'autre part, un généreux mécène, très éclairé, très informé de ces questions, grand collectionneur, bibliophile très éminent, m'a dit très directement, ce manuscrit vous revient, il doit rejoindre les collections de l'Institut, je vous l'offre. Et ce grand mécène, M. Jean-Albert Bonnat, éminent, érudit, collectionneur et mécène suisse, membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, mécène de quantité d'institutions publiques en France et en Suisse, et donc il a pris la décision de financer l'acquisition de ce document, ce qui était indispensable parce que l'Institut n'a pas les fonds pour acheter pour ce type d'opération. Donc c'est un mécénat. Le manuscrit lui-même, alors 14 pages ou 15 pages d'un article de Chateaubriand qui est paru, mais on avait oublié le texte. Il est paru dans une revue anglaise qui s'appelle L'Ambigu, qui a été publié en mars 1816, Mais enfin, personne n'avait jamais vu le manuscrit et il semble qu'il ait été mis en vente par les héritiers de la famille à qui Chateaubriand l'avait donné. Extrêmement intéressant et direct.
Cheminement des manuscrits à travers l'histoire et l'histoire familiale.
Oui. Alors c'est un beau manuscrit, n'est-ce pas, 14 pages, non pas manuscrit autographe de Chateaubriand. Il n'écrivait jamais ses manuscrits entièrement, mais de son secrétaire, et largement corrigé par lui. Et on reconnaît très bien les corrections de Chateaubriand. On reconnaît même, sur la dernière page, une très grosse tache d'encre. Qui est l'encre de Chateaubriand, tout de même, et qui permet tout de même de lire le texte, mais enfin, c'est la dernière page. Et donc, ce manuscrit a pu entrer, en effet, dans les collections de l'Institut, et son entrée officielle, sa remise, va faire l'objet, évidemment, d'une publication, d'abord la publication du texte, avec les paragraphes corrigés, modifiés par Chateaubriand. Tout ça est intéressant. Très intéressant, et touche de très près l'histoire des compagnies académiques en France à une période, en effet, cruciale de leur histoire, parce que, un mot de la date, n'est-ce pas, c'est le retour, la seconde restauration, en 1815, le second retour des Bourbons. Non plus sur un mode prudent et libéral, de la première restauration, mais c'est le retour des émigrés. Napoléon étant à Sainte-Hélène, c'est vraiment le retour des émigrés.
Et on a un petit parfum de revanche dans l'air.
Avec une idée de revanche, en tout cas d'élimination de tout ce qui s'est passé, on a appelé cette période la Terreur blanche, sur les raisons politiques. Mais enfin, c'était un peu l'esprit public. La preuve, c'est que Louis XVIII est revenu sur le trône en annonçant que, et c'était la 19e année de son règne, rayant d'un trait de plume tout ce qui s'était passé entre-temps, la fin de la Révolution et l'Empire. C'est pas rien. Et puis... qualifiant son retour sur le trône comme un dessein de la divine providence. Bon, alors qu'il avait été tout de même admis par la Chambre des représentants et même par le Sénat de Napoléon. Mais enfin, ce n'est pas en vertu de cela qu'il reprend ses fonctions. Il remonte sur le trône, sans sacre, il faut le dire. Contrairement à son frère, Charles X, qui en 1824, à sa mort en lui succédant, lui sera sacré à Reims. Mais Louis XVIII, non.
Oui, il s'inscrit dans les continuités.
C'était, voilà, la continuité. Alors, on dit Chateaubriand a détruit tous ses manuscrits. Ce n'est pas tout à fait vrai. On sait qu'il a détruit les manuscrits des Mémoires d'Outre-Tombe. Pas exactement tout le manuscrit, mais la plus grande partie. Et donc, on connaît quelques brèves parties qu'il avait conservées, probablement pour des raisons personnelles. Et puis, comme on sait, la rédaction des Mémoires d'Outre-Tombe s'est échelonnée sur une très vaste période. Et tout le texte est connu grâce à la copie de son secrétaire, Pilorge, et l'Institut de France, ou plutôt la Bibliothèque nationale de France, pas l'Institut, a eu le bonheur de pouvoir acquérir récemment, à une époque toute récente, le manuscrit des Mémoires d'Outre-Tombe. C'est un grand chef-d'œuvre qui revenait, en effet, certainement, à la Bibliothèque nationale de France. Ici, il s'agit d'un article de journal qui s'appelle « Lettres sur l'Institut » et qui paraît dans une revue anglaise, mais à Londres, mais rédigée entièrement en français, et qui donne des nouvelles de France. Alors, peut-être encore aux émigrés, s'il y en a encore à Londres, il doit y en avoir encore quelques-uns, pas beaucoup, mais surtout diffusé en France. Donc c'est la publication d'une revue française. Alors, un premier point qui est à signaler, c'est que cette lettre, en effet, d'abord, ne concerne pas directement l'Académie française.
Oui, contrairement à ce qui a été écrit.
Contrairement à ce qui a été écrit dans un journal. Peut-être que ça faisait plus spectaculaire de dire c'est le rétablissement de l'Académie française. Mais non. Il était déjà décidé le rétablissement de l'Académie française. Et Louis XVIII n'a jamais fait mystère de son intention, de sa volonté, de, aussitôt revenu sur le trône, de rétablir les académies dans leur tradition, dans leurs privilèges et dans leur mission, avec leur nom d'académie. Et c'est ce qui a été fait par une ordonnance, finalement, du roi, une ordonnance du 21 mars 1816. Cette ordonnance, elle rétablit les académies, chacune des académies, dans leur ancienneté, leur tradition. Et cela était déjà décidé, cela n'a jamais fait la moindre difficulté.
Et si je comprends bien pour les auditeurs, il s'agit d'un changement à la fois symbolique et formel, puisque ces académies continuent à exister, mais sous la forme de
classe
spécifique de l'Institut.
Et donc le roi, revenu, leur redonne le titre d'académie.
Elle rend leur origine noble davantage qu'elle l'ait créée. Voilà.
Alors que dit Chateaubriand là-dessus ? Chateaubriand prend acte de cela. Et il s'interroge simplement s'il fallait bien rétablir la quatrième classe en Académie des Beaux-Arts. Pourquoi ? Parce que si on voulait vraiment rétablir les académies dans leur ancienne, eh bien, il fallait rétablir l'Académie royale de peinture, l'Académie royale de sculpture, l'Académie royale d'architecture, etc.
De musique, j'imagine, oui.
Et comme ça existait sous l'Ancien Régime. Alors que sous la Révolution, les Beaux-Arts étaient réunis dans une seule classe, et la question c'était de créer, de prendre cette classe et de l'établir en Académie des Beaux-Arts. Et Chateaubriand se prononce pour. Il dit « c'est une bonne chose ». Il dit même, curieusement, « il faudra peut-être établir une Académie de peinture, de sculpture et d'architecture, etc. Mais l'Académie des Beaux-Arts sera un étage au-dessus ».
Une architecture qui n'est pas sans rappeler une autre.
Voilà. Et esquissant l'un de ces arguments qui figure très bien noté dans le document, l'article, c'est que, prenant de la hauteur, il fait en même temps élargir le champ des disciplines, les croiser, et donc les enrichir mutuellement chacune, les disciplines artistiques. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, Le document n'apporte rien, sauf ce point, dernier point, sur le rétablissement des académies. Mais où Chateaubriand prend une position ferme et peut-être un peu inattendue, c'est que dans cet article qui a été publié à Londres le 10 mars 1816, donc 15 jours ou 10 jours avant l'ordonnance de Louis XVIII, Chateaubriand prend position pour le maintien de l'Institut de France. Il le fait nettement et en annonçant « je suis un royaliste incorrigible ». De cela, vous pourriez conclure que je veux détruire l'Institut de France. Non point, dit-il, je veux son maintien. Et il l'explique longuement. Le texte sera très intéressant à publier, à analyser. C'est tout à fait dans le style de Chateaubriand. Et il explique pour la raison suivante. C'est que... et alors ça touche une question assez intéressante de société. Il explique que pendant longtemps, l'Académie française a tenu la tête du monde académique, a eu le premier rôle. Et c'était bien naturel à cause de la gloire des belles lettres pendant les siècles précédents. Depuis 20 ans, dit-il, les sciences sont passées devant. Et il est certain que actuellement, la gloire provient plutôt du rayonnement des sciences Et donc, peut-être, on aurait pu s'interroger sur la place respective des académies restaurées. Mais, conclut Chateaubriand, il faut maintenir l'Académie française au premier rang. Et parce que, même si la renommée des lettres ne s'est pas maintenue à la gloire des siècles antérieurs, il reste qu'elle vit sur cette gloire antérieure et que tout le monde en bénéficie. Et qu'on ne peut pas tirer un trait de plume sur cette gloire antérieure. Le texte est très intéressant, n'est-ce pas ? Je l'exprime avec mes mots, ayant lu le texte, mais le texte est tout à fait intéressant. Et alors, il s'exprime à la Chateaubriand en disant « Maintenir l'Institut, une gloire d'un siècle et demi vaut bien une gloire de 20 années. » Et c'est ici un avantage incontestable de mon système. En réunissant les académies sous un nom commun, elles se prêtent un appui mutuel. Si l'une s'affaiblit, l'autre se fortifie. Uranie se présente dans l'absence de sa sœur Melpomène. Et lorsque la sévère Clio se retire, la gracieuse Polymnie peut nous distraire et nous consoler. C'est une idée belle et féconde d'avoir fait un tout des diverses branches de l'intelligence humaine. Voilà la justification. Alors c'est aussi bien qu'une citation de Renan, qui est bien célèbre, et qui dit la même chose, mais en termes moins romantiques, qui est que tous les pays ont des académies célèbres.
Oui, je peux la lire si vous voulez, parce que je l'ai sous les yeux. Je ne la cite pas de mémoire, mais je peux la lire. L'Institut est une chose qui est propre à la France. Plusieurs pays ont des académies qui peuvent rivaliser avec les nôtres pour l'illustration des personnes qui les composent et l'importance de leurs travaux. La France seule a un institut où tous les efforts de l'esprit humain sont comme liés en un faisceau, où le poète, le philosophe, l'historien, le critique, le mathématicien, le physicien, l'astronome, le naturaliste, l'économiste, le juriste, le sculpteur, le peintre, le musicien peuvent s'appeler confrères. Et donc c'était effectivement d'Ernest Renan en 1867.
Voilà, il y a une continuité remarquable, n'est-ce pas ? Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Chateaubriand avait tenu le même discours 60 ans avant. C'est extrêmement révélateur. Ça prouve la vue très prospective de Chateaubriand. Il avait vraiment la science des futuritions, n'est-ce pas, comme il a appelé le dernier chapitre des Mémoires d'Outre-Tombe. Parce que... autant Renan pouvait le dire en s'asseyant sur une renommée...
En contemplant le présent.
...du 19e siècle. Mais Chateaubriand, en 1816, c'était beaucoup moins... l'Institut, n'oublions pas, l'Institut était une création de la Convention. Et c'était une création révolutionnaire. Bonaparte avait été élu membre de l'Institut comme général d'artillerie dans la classe des sciences... Et Bonaparte lui avait donné un grand rayonnement sous l'Empire. C'est lui qui a affecté en particulier le Collège des Quatre Nations comme siège de l'Institut de France. Pas des académies, de l'Institut, c'était le seul à exister à l'époque. Mais enfin, l'Institut avait accueilli bon nombre de conventionnels et même de régicides. Donc en 1816, faire cette proclamation... en faveur du maintien de l'Institut de France, c'est une vue assez prospective et assez pénétrante de Chateaubriand.
Oui, et qui s'inscrit dans la continuité. Lorsque l'Institut a été créé, on peut imaginer que c'était dans la volonté de briser peut-être d'anciens corps constitués d'anciens régimes qui étaient les académies initiales. Petite arrière-pensée politique ou tactique, on imagine, mais peut-être aussi, je pose la question, n'était-ce pas la volonté justement de rassembler, au-delà des tactiques politiciennes, de rassembler les savoirs humains ? Ça semble quand même s'articuler avec cette vision assez, je sais pas, des encyclopédistes par exemple, d'une volonté d'acquérir un savoir universel, ce qui était encore possible à l'époque peut-être.
Alors c'est là qu'on touche à des réflexions qui sont plus actuelles, n'est-ce pas, et intéressantes. Si on a un instant pour en parler,
volontiers.
La connaissance prise de cet article, qui encore une fois va être publié et analysé, on touche là deux questions tout à fait importantes. La première, c'est la gloire des sciences. Chateaubriand le constate depuis 20 ans, dit-il. Depuis 20 ans, en effet, les sciences ont peut-être eu un développement et une gloire plus importante que précédemment. La question est tout à fait actuelle, car beaucoup de réflexions autour, d'ailleurs, des différentes académies de l'Institut de France, mais bien plus largement dans le monde savant, dans le monde des sociétés savantes et des universités, des chercheurs, etc. La question qui se pose, c'est celle aujourd'hui des limites de la science. Gloire, certainement. Puissance, certainement. Mais quelle puissance ? Et la question qui se pose, et c'est une interrogation profonde, c'est celle des limites de la science. Et en amont encore, qui pose les limites de la science ? Et donc, d'une certaine manière, la vue de Chateaubriand, confirmée par Renan, et confirmée encore par les académies d'aujourd'hui, montre que la réunion des différentes académies, j'énumère les sciences, appuyée d'ailleurs par l'Académie des technologies, qui ne fait pas partie de l'Institut de France parce qu'elle a été créée bien postérieurement, mais enfin qui agit en étroite collaboration avec l'Académie des sciences, la puissante Académie des sciences, qui comprend 250 membres, n'est-ce pas ? Et d'un autre côté, l'Académie française, l'Académie des sciences morales et politiques, dont c'est peut-être l'un des rôles essentiels, sciences morales et politiques, son nom, n'est-ce pas, l'indique, réfléchissent et peuvent contribuer à y voir plus clair dans les limites à poser à la gloire, mais à la puissance, au développement de nos jours presque illimité des sciences dans la transformation de la société, dans la transformation même de la vie, de la planète, de l'homme, dans la génétique, les neurosciences, la bioéthique, toutes ces questions sont posées. Et alors cela rejoint une interrogation qui est menée, sur laquelle j'ai eu l'occasion de prendre la parole devant l'Académie des sciences morales et politiques, c'est actualité des sciences morales et politiques. Quelle est l'origine ? Qu'est-ce que ça veut dire, les sciences morales et politiques ? Et alors, vous l'avez dit il y a un instant, les sciences morales et politiques sont les héritiers, les héritières, devrait-on dire, de l'esprit des Lumières, de l'esprit de l'encyclopédie, de un moment où le brassage des disciplines aboutit à une conception globale du progrès et du progrès de la société dans toutes ses dimensions. Sans grande crainte encore à l'époque. Les fondateurs de l'Académie des sciences morales et politiques envisageaient les choses avec une extrême confiance et avec la conscience de faire progresser l'esprit humain dans la voie du progrès, des principes éclairant le monde et sans aucune difficulté. Les difficultés sont apparues plus tard, dans le second 19e siècle, n'est-ce pas ? En fait, ce sont les progrès de la science qui ont introduit des vraies difficultés sur le point de savoir si les sciences que l'on appelle, mais il ne faut pas dire dures, les sciences exactes, si on veut, les sciences avaient un développement indéfini et qui résoudraient toutes les difficultés sans poser aucune question de caractère moral et politique. La question a été vraiment posée, n'est-ce pas ? Rappelons-nous qu'au temps de l'encyclopédie, il y a eu une science qui était celle des physiocrates, qui a imaginé qu'on pouvait inventer une mathématique sociale. C'est-à-dire que tous les problèmes de la société pouvaient être réglés de la même manière et avec les mêmes lois que la mathématique, que la physique. C'est l'idée de Condorcet. Condorcet l'a écrit, n'est-ce pas ? Et Condorcet est un des fondateurs de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, on a vécu pendant pas mal de décennies dans une confiance absolue. D'ailleurs, la sociologie, Auguste Comte, a eu la même idée. On dit, voilà, je vais mettre tout ça en science, c'est la sociologie. D'ailleurs, l'expression est bien antérieure à Auguste Comte. On la trouve sous la plume de Sieyès, sous la Révolution. La sociologie est une science qui va résoudre tous les problèmes.
Oui, mais en même temps, dans cette volonté de mise en équation, finalement, du réel dans sa globalité, on voit apparaître, y compris chez Auguste Comte, mais également chez d'autres, la nécessité parallèle de fonder une nouvelle morale.
Exactement. Oui, oui.
Est-ce que ce n'est pas le point de départ, finalement, du nouvel élan des sciences morales et politiques ?
Auguste Comte a d'ailleurs pris la position en disant de tout cela, il résulte qu'il devrait y avoir deux académies. Une des sciences exactes, mais elle ne peut pas aller toute seule, et donc une autre des sciences de l'esprit. Il n'appelle pas des sciences morales et politiques, mais l'académie de l'esprit, mais c'est la même chose.
C'est bien cela.
C'est la même chose, oui. Oui.
À la même époque, on parle aussi pas mal des sentiments. Alors ça,
oui, exactement.
C'est un mot un petit peu curieux à nos oreilles aujourd'hui.
Mais très, très 18e siècle, c'est tiré de l'encyclopédie.
Mais qui recouvre donc bien cette idée de sciences humaines, sociales, tendue vers l'organisation politique de la vie, c'est bien cela ?
Exactement.
Et c'est ce qu'on retrouve également dans le manuscrit de Chateaubriand.
Alors, j'arrête là sur l'article de Chateaubriand, parce qu'il y a encore bien d'autres choses. Il développe un programme culturel. Il développe des vues très précises sur l'organisation du Louvre, comme musée national. Il développe des vues sur l'architecture dans Paris. Alors ça, je réserve ça aux futurs lecteurs, parce que ça va être une grande surprise. Mais peut-être peut-on s'interroger sur l'actualité de tout ça. La raison, le vrai intérêt de cette plongée dans nos origines, dans la source de la création, le maintien de l'Institut de France, et de 5 académies qui le composent, dit la loi. Pas qui le, qui le regroupe, pas qui, non, qui le compose. Voilà. La vraie raison, c'est que, en effet, le croisement des disciplines est une très grande richesse, surtout maintenant. C'était vrai sous la Renaissance, comme c'était vrai sous l'époque de l'encyclopédie du XVIIIe, mais c'est encore plus vrai maintenant. Le croisement des disciplines, beaucoup plus difficile d'ailleurs, étant donné leur spécialisation, mais beaucoup plus difficile aujourd'hui, mais devient de plus en plus nécessaire. Et ce croisement des disciplines est assuré dans la réunion des académies au sein de l'Institut de France. La renommée de l'Institut de France n'a rien perdu par rapport aux époques précédentes, et les académies non plus d'ailleurs, et vivent dans une grande symbiose riche, enrichissante. Je constate que les pays étrangers ont des académies très belles, d'ailleurs très grandes, très belles, des académies dont ils sont fiers, qui sont comme des éléments de l'identité nationale et qui sont généralement détentrices de patrimoine immense. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai aux États-Unis d'Amérique. Et donc, je ne parle pas de la Russie où les académies sont à la fois un CNRS, des universités, emploient des dizaines de milliers de personnes et ont des centaines et des centaines de laboratoires. Alors c'est autre chose, n'est-ce pas ? Nos académies ne sont pas de cet ordre-là. Mais donc on ne peut pas vraiment comparer. Mais donc les grands pays occidentaux sont fiers de leurs académies, les entourent d'une certaine chaleur et encouragent vivement leurs travaux. Il est vrai que plusieurs opère la synthèse indispensable entre les sciences exactes et les sciences de l'homme au sein même d'une académie particulière qui est dédiée à cela. Pour l'Institut, c'est un peu différent, mais la synthèse s'opère aussi. Et pour ma part, et la conscience est en train d'émerger très fortement parmi les académiciens, j'encourage et je privilégie fortement tous les travaux interacadémiques. Et on s'aperçoit qu'il n'est pas de grande question de société de nos jours qui ne soit en réalité la matière de travaux académiques. Le climat, l'environnement, la biodiversité, la bioéthique, les neurosciences et encore bien d'autres choses sont en réalité partagées entre, évidemment, l'aspect scientifique pur, qui est du domaine de l'Académie des sciences, mais l'aspect moral et politique et réflexion en amont et sur les limites de la science qui relèvent plutôt de l'Académie des sciences morales et politiques et aussi de l'Académie française. Et donc, cette synthèse-là s'opère au sein de l'Institut. Revenons au document de Chateaubriand, n'est-ce pas ? Il l'avait vu, il l'avait dit, et ce qu'il dit a conserver toute sa valeur actuelle. Ce qu'il disait dans une revue, L'Ambigu, qui n'était pas extrêmement répandue, et même peut-être pas assez, parce qu'on avait oublié cette publication de Chateaubriand. Et dans les nombreux travaux qui ont été publiés depuis sur l'Institut, son histoire. Quand on a, par exemple, célébré le deuxième centenaire de l'Institut en 2005, personne n'a parlé de l'article de Chateaubriand. Vous pensez bien que s'il avait été présent aux esprits, ça aurait été la matière d'un petit chapitre, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Eh bien, voilà, maintenant le chapitre se fait sur cet épisode très marquant. Et en même temps, il marque des préoccupations qui sont pérennes, qui sont très actuelles et qui mériteraient, elles aussi, d'être mieux connues qu'un simple article publié dans une revue de Londres. Et nous nous efforcerons de donner cette large écho, faire partager ces préoccupations par l'opinion éclairée de notre pays et même dans tous les pays qui se posent les mêmes questions, car cela est une préoccupation générale et probablement fondamentale.
Merci beaucoup, Monsieur le Chancelier. Pour conclure, une réflexion d'ordre général. Au-delà de la, on a vu que notre temps est marqué par une spécialisation de plus en plus forte. Vous avez insisté sur la nécessité d'accomplir des travaux qui soient plus transverses. Est-ce que, au-delà de cette nécessité pour les sociétés savantes, le rôle des académies et au-delà davantage encore de l'Institut n'est-il pas justement dans ce monde qui peut paraître en évolution et en mutation extrêmement accélérée et en voie de morcellement du savoir et qui échappe donc à la perception du citoyen, n'est-ce pas justement de donner vers le grand public, vers la société dans sa globalité, du sens et des repères ?
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Pas uniquement le sens des repères, c'est un problème de la société dans son ensemble, mais pas uniquement cela. Le sens de la transmission du savoir, du savoir, de l'accumulation du savoir, de la transmission du savoir et de l'interprétation des différentes disciplines. C'est du rôle essentiel des académies et de l'Institut. Et vous me tendez une perche que je n'avais pas l'intention de saisir, mais là, je suis obligé de le faire. L'un des grands projets de l'Institut de France aujourd'hui, c'est de créer un auditorium de 400 places qui permettra justement tous les travaux interacadémiques entre académies de l'Institut, mais aussi avec les sociétés savantes françaises. Il y en a de nombreuses qui déjà connaissent bien le chemin de l'Institut et participent très souvent à nos délibérations, mais étrangères aussi, et également un auditorium qui sera ouvert au public en général, conçu pour cela, et au cœur du Paris historique, qui sera justement une des pièces maîtresses, probablement, de cette action en direction de l'opinion et du public qui doit être informé et qui prend grand intérêt, d'ailleurs, à une vue sereine, distanciée, si possible, claire et bien formulée, de ces problèmes de société que nos contemporains ressentent évidemment vivement et avec, en effet, vous l'avez dit, une certaine inquiétude. Et donc nous pouvons apporter une réflexion et peut-être simplement le sens de la réflexion, du débat, de la mise en commun des idées.
C'est effectivement un enjeu majeur auquel d'ailleurs Canal Academy essaye de contribuer modestement, mais avec obstination et jour après jour, grâce bien sûr à l'ensemble des travaux des différentes académies et le soutien actif de l'Institut. Pour conclure sur quelque chose de beaucoup plus prosaïque, je me doute que beaucoup de nos auditeurs se demandent Quand pourront-ils avoir accès au fac-similé de ce magnifique manuscrit? Quand sera-t-il peut-être exposé, rendu public avec un appareil critique? A-t-on d'ores et déjà une idée du calendrier ou pas encore?
Je m'efforce de l'organiser et je voudrais que cela soit, pour des raisons pratiques et personnelles d'ailleurs, que ce soit avant la fin du mois d'avril.
Ce sera très rapide.
Nous sommes en février, n'est-ce pas? Donc,
voilà. Oui, pour un manuscrit qui vient d'être acquis,
oui.
C'est très rapide. Merci beaucoup, monsieur le chancelier. Merci d'avoir fait la critique éclairée de ce manuscrit et d'avoir accepté de répondre aux questions qui nous emmenaient bien plus loin.
Merci à vous. Je tiens à m'associer et à donner mon hommage à Canal Académie, qui en effet est un instrument de diffusion des travaux académiques tout à fait indispensable et auquel, vous le savez, je suis personnellement très attaché.
Merci beaucoup, monsieur le chancelier. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, bien sûr, nous vous tiendrons au courant de la perspective de publication sous différentes formes et de publicité autour de ce manuscrit. Merci beaucoup et à bientôt. Thank you.